Vous vous souvenez, on voulait partir à la découverte d'un pays duquel sont revenus pour un temps des invités mystérieux qu'on a parmi nous. Peut-être que certains les connaissent déjà, sûrement. Ne vendez pas la mèche. Et ils ont apporté dans leur valise des choses qui vont être des indices pour nous. Alors, on va voir tout ça ensemble. Et pour ceux qui nous écoutent par téléphone, je vais essayer de vous décrire ce que je sors de cette valise. Oh, c'est des jolies tongs roses. Ils pourraient être d'une autre couleur. C'est un pays où il doit faire chaud. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, un chapeau de paille, magnifique. Ça tape fort le soleil quand on travaille dans les champs là-bas. Et il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les champs parce que c'est trop cher l'école et ça rapporte plus de travailler dans les champs. Wow, un magnifique éventail. Magnifique, incrusté de fleurs du pays. Wow, un fruit qui sent merveilleusement bon et qui est merveilleusement bon, la mangue. Un pays où les enfants portent des habits magnifiques, incrustés de bordures avec des éléphants. Wow, c'est quoi ça? En fait, c'est une lettre fabriqué avec un espèce de parchemin, une lettre qui se referme comme un accordéon, comme dans une boîte. Et ça, et ça, et ça. Waouh! Des piments rouges! C'est ce que mangent beaucoup de personnes quand les récoltes sont finies. Depuis longtemps, il n'y a plus de réserve. Dans les maisons, il n'y a presque plus rien à manger. Et il paraît que dans toutes les familles, on mange du piment et du riz en attendant la prochaine récolte. Le piment est bourré de vitamines, donc ça les aide à tenir jusqu'à la prochaine récolte. Est-ce que ça commence à faire tilt? Quel est ce pays? Je vais vous aider beaucoup là. C'est un petit cahier là où je pense qu'on voit le drapeau. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Du jaune en haut, du vert au milieu, du rouge en bas, trois bandes de couleurs avec une étoile au milieu, blanche. Et si j'ouvre le petit cahier, j'espère que vous voyez, c'est une écriture juste merveilleuse, l'écriture de ce pays. On dirait une broderie. Voilà. Moi, je ne vais pas vous dire de quel pays il s'agit. C'est nos invités qui vont vous le dire. Mais dans cette valise, il y avait encore une immense enveloppe. Suisse. Vous voyez ce que c'est écrit. Courage. Et dans l'enveloppe, eh ben, c'est vide. Et dans l'enveloppe, on espère qu'il y ait plein de cartes que vous allez pouvoir écrire, que les jeunes, que les enfants vont pouvoir écrire ou dessiner avec un mot, avec un encouragement, avec une photo de vous, pourquoi pas. Et nos invités, surprise, qui vont se présenter tout à l'heure, ils vont amener cette enveloppe pleine de mots, d'encouragement à ceux avec qui ils travaillent. Et ils vont les mettre contre les murs et ça sera tous les jours une force pour ceux qui sont là-bas et qui ont besoin d'encouragement. Voilà. Alors je vais accueillir avec plaisir. Merci d'être là, les deux. Estelle. Bonjour Estelle.
Bonjour à tous. Vous nous
Bonjour
entendez?
Estelle. Bonjour Jessie. Jessie. Bonjour
Bonjour.
Jessie. Bienvenue à vous deux. Merci
Merci.
d'être avec nous. Bienvenue à Eliam, 3 ans, qui est votre premier garçon. Bienvenue à Joachim, 1 an et demi, qui est votre deuxième fils et qui sont pas là aujourd'hui, mais qui soient bénis. Et moi, je vous passe la parole.
Merci pour cette magnifique introduction, Dora. Et merci, Aritz, pour ce temps de louange qui était vraiment un temps béni. On est vraiment encouragés et tellement contents d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à Florence. On va vous parler de ce pays qui nous a adoptés depuis maintenant 7 ans, dans lequel on est tombé vraiment amoureux. C'est un merveilleux pays, c'est le Myanmar. On appelle aussi la Birmanie. Je vais partager en même temps que je parle des photos et puis j'essaierai de les décrire aussi. Notre famille, donc, nous avons 2 garçons et ça fait 7 ans que nous travaillons avec Jeunesse en Mission au Myanmar. On a vraiment eu une connexion très forte avec ce pays. On peut parler le birman maintenant et on a vraiment une famille autour de nous qui s'est créée avec le peuple birman. C'est un peuple tellement divers. Et quand Dora parlait justement du fait que certaines personnes ne puissent pas aller à l'école et certaines personnes n'ont plus que des piments à manger pendant certaines périodes de l'année, c'est vrai qu'il y a des régions très pauvres, des régions très riches. Il y a des enfants qui peuvent aller dans des super écoles et en même temps des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, on n'aimerait pas dépeindre une image de cette société comme étant un pays très pauvre parce que c'est un pays, en fait, qui a beaucoup de ressources, qui est très riche, mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Et certains endroits, il y a beaucoup de conflits militaires depuis des années. Et les peuples souffrent. Et puis, d'autres régions vont très bien, prospèrent, vivent dans la paix et s'entraide. Donc, c'est difficile de dépeindre des fois un pays dans son ensemble. Nous allons vous parler aujourd'hui de la persécution des chrétiens. Cette persécution au Myanmar, elle n'est pas vécue comme dans d'autres pays musulmans, par exemple l'Arabie ou d'autres, l'Afghanistan, d'autres pays musulmans, ni comme en Chine. C'est une persécution beaucoup moins violente, je dirais. Nous avons beaucoup de tribus qui sont chrétiennes depuis des générations et elles sont acceptées comme chrétiennes. Donc, ils ont le droit de vivre leur foi, ils ont le droit d'aller à l'église, ils ont le droit de se retrouver. Mais pour les familles bouddhistes, vous pouvez voir tous ces temples, le Myanmar considère que les Birmans doivent être bouddhistes et beaucoup de tribus doivent être bouddhistes, elles n'ont pas le droit de changer de religion. Et aujourd'hui, on aimerait vous présenter plusieurs familles, plusieurs personnes dans notre entourage qui nous ont tellement touchés ces dernières années pour leur courage, pour leur foi et comment eux ont réussi en venant d'un milieu bouddhiste, comment ils ont réussi à prendre position pour Dieu malgré la persécution et malgré les difficultés. Et on a eu beaucoup de plaisir à préparer ce moment parce que ça nous réjouissait de se rappeler de tous ces gens qui nous entourent. Et en même temps, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on n'en a choisi que 4 à vous présenter aujourd'hui. Donc, je passe déjà la parole à Jessie.
Oui, alors, si vous regardez la carte, le Myanmar, c'est entre l'Inde, Bangladesh, Chine, Laos et Thaïlande. Et ici, vers le Laos et Thaïlande, il y a le fameux Golden Triangle. C'est aussi le triangle d'or, on va dire, de drogue. En fait, sur cette zoom, en fait, il y a une couple aussi qui habite dans la même région que nous, au Myanmar. Elle travaille, elle est vigneron. Et lui, il est enseignant. Salut David et Laura. Ils sont aussi là. Et puis, pour nous, ça reste un couple très, très important. Et aussi, il y a les parrains et les marraines d'Estelle aussi sur cette Zoom. Et on est vraiment encouragés parce que dès le début de notre arrivée, on sait qu'il y a des gens qui prient pour nous. Et moi, je n'ai pas de parrain ni marraine. Mais je sais maintenant ce que ça veut dire d'avoir des God parents qui prient pour toi, qui sont engagés avec nous. Et ça nous encourage beaucoup. Alors, je pense que chacun de vous, ou plusieurs d'entre vous avec des fioles, et c'est quelque chose de très, très important. Oui, alors le Myanmar, comme Estelle l'a dit, en total, on a environ 5 à 8% de chrétiens officiels. Ça reste parmi les tribus qui sont chrétiens depuis des générations. Mais au Myanmar, sur la carte d'identité, si tu ne viens pas de ces tribus chrétiennes, ça sera écrit bouddhiste. Du coup, même si tu t'es converti, tu auras pas, c'est très compliqué de changer sa carte d'identité, son carte d'identité, pour devenir chrétien. Ici, c'est un homme à droite, en chemise blanche. Bon, ils sont les deux en chemise blanche, mais celui de droite, il s'appelle Kure. Il travaille au nord de l'état de Shan, qui est le plus grand producteur de drogue mondialement. Alors, le méthamphétamine mondialement, c'est produit dans l'état de Shan, où nous on habite, et David et Laura aussi. Mais au nord, il y a les conflits parmi les peuples, les groupes rebelles, et avec la drogue aussi. C'est un endroit, une zone où c'est très difficile. Voici la femme à gauche et le monsieur au milieu, c'est un couple qui vient d'un tribu bouddhiste, Palang, c'est un groupe Palang. Et eux, s'ils acceptent Jésus, s'ils veulent suivre le Seigneur, ils sont chassés de leur village. Cette couple a été rejetée de leur village, ils ont perdu leur terrain, ils ont dû fuir, pas à cause de violence, mais le village a dit, vous n'êtes plus le bienvenu ici, vous n'avez plus le droit de vivre ici, vos champs ne sont plus les vôtres. Ce monsieur à droite, il a à cœur ce peuple, et il a commencé un internat où il a environ 15 jeunes qui ont, à force de vivre avec lui, rencontré le Seigneur et qui ont maintenant envie de donner leur vie à Dieu. À travers de ces jeunes, leur famille, ça c'est des parents d'un jeune dans l'internat, leurs parents se convertissent aussi. Lui maintenant, il a la vision de commencer un terrain de secours où les villageois qui sont éjectés peuvent venir habiter, se rétablir au moins 6 mois, une année, vraiment être formés dans leur foi, d'être encouragés avant de les encourager de retourner dans leur tribu pour que tout le reste du peuple aussi entende de Dieu. J'aimerais parler de cette dame-là qui a le petit bébé dans ses mains. Elle s'appelle Mingé. Elle habite dans notre zone, alors dans notre village, ville-village. Elle est aussi Palang. Elle aussi, quand elle a accepté le Seigneur, elle a dû partir de son village. Sa maison, ses terrains ont été pris par le village et tout le village entier l'a rejeté. Alors, elle habite dans une zone, alors ces tribus-là, chacun aide les autres dans leurs champs. Ça fait un tournus. Ils ne se payent pas, mais ils font un tournus dans les champs. Ils cultivent des oranges, du thé. Quand elle a accepté, quand elle s'est fait baptiser, elle était très claire dans son nouvelle identité. Du coup, personne n'est venu aider dans ses champs. C'était qu'elle toute seule. Et avec son mari aussi. Mais cette dame-là, elle a, je crois, maintenant peut-être 30 ans. Elle a tellement à cœur son propre tribu et peuple qu'elle a investi maintenant. Elle travaille encore dans les champs, mais un autre champ. Elle a dû s'enfuir sur une autre colline, montagne, où elle a commencé un autre champ, des champs d'oranges et thé. Et là, elle accueille ceux en difficulté. Alors, cette couple-là, ils n'avaient plus rien, ils étaient très pauvres, et les a accueillis. Ça, c'était leur première petite maison qu'ils ont établie pour cette couple, pour les aider. Elle était enceinte, la femme au milieu, et elle a dû faire naissance au bébé au milieu du champ. Il n'y avait personne autour. Cette couple-là aussi, maintenant, ils suivent le Seigneur, et c'est tellement incroyable. Mais malheureusement, le monsieur à droite, le mari, il est encore en chemin avec sa foi. Il a volé la moto de cette dame, mais elle l'a pardonné. Et c'est ça qui m'a touché très fort. Voici un verset biblique qui, quand je pense à cette dame, me vient dans mon cœur. Alors, je voulais lire pour vous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cette dame, elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas fini l'école, mais elle est ambassadeur du Christ. Et ça, on voit clairement. Et voici son mari. J'aimerais vous partager la suite. Ils se sont fait éjeter de leur village en 2016. Une année plus tard, son mari, qui est là avec le turban bleu autour de sa tête, il avait à cœur de retourner dans son village et de faire une fête de Noël et de cuire un de leurs propres cochons, ils aiment bien le cochon là-bas, pour le offrir au village. Et voici, il est au milieu. Et il avait beaucoup de gens, on ne voit pas trop. J'avais juste pris une photo vite fait. Ça, c'est avant le repas. Tout le monde attend parce qu'ils veulent manger. Ça, c'est avant le repas, pendant le temps de Noël. Lui, il s'est mis à genoux devant toutes les autres, les villageois qui l'ont éjecté. Il a dit, je vous pardonne. Je ne compte ça pas contre vous. Ça, c'est mon nouvelle identité. Je comprends que ça ne vous arrange pas, mais vous restez quand même mon peuple. Et vous êtes mon peuple, mes cousins, mes voisins, et j'aimerais vous bénir. Alors voici mon cochon, il avait élevé quelques cochons. Ils ont préparé, on a cuit ensemble. Et c'était vraiment un temps, je regardais un peu dans la foule. Les gens, leur cœur, dans ce moment-là, c'est là où le Saint-Esprit il travaille. Les gens, ils ne connaissent pas encore Dieu. C'est eux qui ont rejeté cette famille. Et là, tout d'un coup, une année plus tard, ils se font inviter pour un repas vraiment classe. Et ça a vraiment changé leur cœur.
Voilà. Alors, je vais continuer avec une autre de nos très grandes amies. C'est une fille qui est comme une sœur pour nous. Vous la voyez sur la photo au milieu, au centre, avec des enfants autour d'elle. C'est une jeune qui s'est fait former dans une école que nous avons ouverte dans notre ville. Nous l'avons formée comme enseignante. Et puis, cette jeune, elle vient aussi d'une tribu bouddhiste, mais elle a rencontré le Seigneur, elle a donné sa vie à Dieu. Et puis, vraiment, elle est très, très proche du Seigneur et c'est quelqu'un de très intelligent. C'est la première de son village à avoir pu passer le lycée. C'est la première de son village à avoir été à l'université, à avoir eu un bachelor. Et du coup, elle a une position assez respectée dans son village, malgré le fait qu'elle est chrétienne. Elle n'habitait plus dans son village depuis plusieurs années parce qu'elle travaillait avec nous en ville, dans cette école. Et puis, tout le monde savait qu'elle était devenue chrétienne. Et parfois, il posait un peu des problèmes à sa famille, à ses parents. Mais il ne l'embêtait pas parce qu'elle n'habitait déjà plus dans ce village. Et puis cette jeune, elle me fait penser à ce verset qui dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demeuriez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et puis cette jeune, elle nous épate à chaque fois parce qu'elle a une joie de vivre, elle rigole tout le temps, elle est tout le temps joyeuse et puis elle a une très très bonne influence sur tous les autres jeunes qu'on forme. Là, vous voyez une photo avec toutes des jeunes enseignantes qui sont formées dans notre école. Alors, un jour, elle était en train de prier dans sa chambre un soir et elle demandait à Dieu, elle disait « Mais Seigneur, je suis ici dans cette ville en train de bénir des enfants, notre école est chrétienne, en train de leur parler de ton amour tous les jours, de leur parler de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a pour mon peuple? Dans mon village, il n'y a pas d'école pour les tout-petits. Les enfants, ils arrivent, quand ils vont pouvoir aller dans une école primaire plus loin, ils ne parleront pas le dialecte de cette école parce que c'est pas la même tribu. Et beaucoup d'entre eux vont abandonner après une année ou deux. Ils ne seront pas éduqués et personne ne connaît ton amour dans mon village. Qu'est-ce que tu as prévu pour mon peuple ? elle priait cette prière le soir. Et le lendemain matin, pendant qu'on était tous à l'école en train de travailler, une délégation de ce village est arrivée. 5 hommes sont arrivés vers elle. Ils ont demandé à ce qu'elle sorte de l'école. Elle est sortie et ils lui ont dit, Luinge, son nom c'est Luinge, on aimerait que tu crées une école comme celle-ci dans notre village. On aimerait, tous les chefs se sont mis d'accord, on aimerait que tu crées cette école dans notre village pour nos enfants. Et elle était sous le choc parce qu'elle avait fait cette prière le soir avant. Et comme c'est mis dans le verset, ce que vous demanderez, votre père vous entend et il va faire en sorte que ça puisse arriver. Et puis elle est venue me chercher, elle était en larmes, elle était tellement heureuse. Elle me dit, mais tu sais, ils savent que je suis chrétienne. Normalement, je n'ai pas le droit d'habiter dans mon village. Et ils viennent me rechercher pour que je crée une école. Ils savent que les enfants, ils vont entendre parler de Dieu, vu que je suis chrétienne. Et alors, ça a été vraiment une grande joie. Ça nous a pris pas très long, peut-être une année et demie. Le Seigneur a ouvert toutes les portes pour qu'elle puisse avoir les fonds pour créer son école. Et voilà l'école dans le village, vous pouvez voir. Cette belle école qui a été créée pour les enfants de deux villages. Voilà les enfants derrière, vous pouvez voir, elle est à droite. Vous pouvez voir tous ces enfants. Et la jeune qui est assise devant, c'est sa nièce. Et elle est aussi chrétienne et elle est aussi enseignante dans cette école maintenant. Lorsqu'elle a commencé la construction de l'école, lorsqu'on a commencé la construction de l'école, tout d'un coup, les moines de la région, ils se sont rendus compte de ce qu'il se passait et ils ont décidé que ça ne pouvait pas se faire. Ils ont dit, ces gens sont chrétiens, ils vont amener la foi chrétienne, on n'est pas d'accord que vous construisiez cette école. Et c'était très dur pour Luinge, pour sa famille, parce que tout le monde voulait cette école. Et il y a dû avoir beaucoup de discussions. Elle est allée dans le monastère, elle s'est assise avec les moines. Elle a dû être très sage dans sa façon d'être respectueuse, de montrer qu'elle n'était pas en train de se battre contre eux, de montrer qu'elle les respectait, mais que c'était une demande qui avait été faite et que si eux refusaient, elle n'allait pas le faire, mais que toute la région allait perdre une bénédiction et toute la région allait être triste. Et les villageois avaient vraiment envie de cette école et ils se sont positionnés pour elle. Et finalement, elle a eu toutes les autorisations. Elle a eu droit à créer cette école, vous voyez, sur un terrain très en pente. Ce peuple, ils habitent toujours en haut des montagnes. Et puis, elle a pu créer aussi un terrain de foot où tous les jeunes viennent jouer du sport. Donc, c'est devenu un centre communautaire. Le matin, les enfants viennent à l'école et le soir, les jeunes viennent pour se rencontrer et dans un endroit sain où il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, où les gens se respectent. Voilà les enfants, les premiers enfants. Alors, malgré COVID, toutes les écoles sont fermées maintenant au Myanmar. Mais le chef du village a demandé que leur école puisse être quand même ouverte seulement pour un des villages. Donc, ils n'ont pas pu accepter d'autres villages pour l'instant. Donc, il y a seulement les enfants d'un seul village. Voilà, les jeunes le soir qui viennent faire des cours du soir en anglais. Parce que ces jeunes, elles sont aussi très avancées en anglais. Elles parlent plusieurs langues. Donc, voilà. Donc, cette jeune, elle a vu vraiment la puissance de Dieu sur sa vie et malgré les persécutions, c'était très, très difficile pour elle, cette période où les moines l'attaquaient et attaquaient sa famille et refusaient qu'elle construise son école. C'était très difficile. D'ailleurs, le terrain sur lequel elle a pu construire son école, c'est un terrain proche du cimetière, donc personne ne voulait l'utiliser. Et puis, les parents même avaient souci d'envoyer leurs enfants dans un terrain qui était proche du cimetière et ils demandaient à ce qu'elles fassent un rituel bouddhiste pour purifier l'endroit. De nouveau, très difficile, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que Est-ce que j'essaye de refuser? Est-ce que j'essaye de leur expliquer? Et non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à faire une bénédiction chrétienne, en fait. Elle a invité un pasteur à venir faire une bénédiction chrétienne sur le lieu. Alors, ça a créé des problèmes, mais finalement, le lieu est tellement magnifique, les enfants sont tellement heureux, le matériel est de bonne qualité que aucun parent n'a résisté à envoyer leurs enfants là. Et puis, on prie vraiment pour la protection des enfants et des enseignantes, parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on sait que, ben, ils vont être blâmés d'être chrétien, en fait.
Accusés
d'être chrétien. Et le bouddhisme, tout fonctionne autour du karma. Donc, si tu fais quelque chose de bien, tu reçois quelque chose de bien. Mais si un malheur t'arrive, c'est certainement que tu as fait un péché avant. Donc, si un malheur arrive à un de ses enfants, elle risque d'être vraiment blâmée pour ça.
Accusée.
Donc, on espère, on prie vraiment pour la protection, qu'il n'y ait jamais d'accident, qu'il y ait vraiment que des belles choses qui sortent de cette école, pour que ça puisse être un magnifique exemple, que le Seigneur protège, que malgré que ce terrain soit proche d'un cimetière, il n'y a pas de mauvais esprits qui viennent les déranger, qu'ils sont sous la protection de Dieu. Et on est émerveillé de voir que ouais, ça va être une bénédiction, une lumière sur une montagne pour toute la région.
J'ai déjà partagé ça avec le groupe des jeunes vendredi. Mais ça, c'est un jeune homme, il s'appelle An-An. Ça veut dire victoire, double victoire. Ils ont des noms comme ça au Myanmar. Ce jeune-là aussi, il a dû faire face, il fait encore face à la persécution dans sa famille et dans son village et parmi tous ses amis, les tribus. Il a rencontré le Seigneur parce qu'il est venu habiter dans un internat chrétien. C'est exactement ça qui est toujours clé au Myanmar, c'est de créer des internats où on accueille les enfants, les jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'éducation dans leur village. Alors, ils viennent habiter avec des autres. Alors, si c'est une famille chrétienne, ben, forcément, Dieu, il agit dans leur vie. Et lui, sur une année, il a décidé qu'il va suivre Dieu. Il a fait sa décision à 14 ans. À 15 ans, il a dû retourner dans son village l'été et on avait beaucoup prié pour lui parce qu'on savait qu'il était quelqu'un très clair dans sa foi. Il avait toujours la guitare à la main, il était toujours en train de faire la louange, toujours. Et même parmi ses amis, ils sont tous bouddhistes, il avait toujours sa guitare à la main, il jouait des louanges. Quand il est retourné dans son village, les moines, ils ont su qu'il avait accepté Jésus, qu'il était plus bouddhiste. Alors, pour tester ça et pour réclamer le respect, quand il est allé dans le village, ils l'ont convoqué vers le monastère. Il fallait qu'il se prosterne devant les moines, devant l'idole de Bouddha, pour montrer son fidélité aux religions. Parce qu'il vient du tribu bouddhiste. Il faut montrer qu'il était encore de cette tribu, qu'il était encore bouddhiste. Alors, on avait beaucoup prié pour lui. Comment gérer cette situation? Dieu nous dit, bien sûr aussi, il faut honorer les plus âgés, il faut honorer ses parents. Ses parents aussi, ils voulaient qu'ils se prosternent devant l'idole et devant les moines. Alors, il était vraiment, c'était une décision très dure. Et il était tout seul. Mais c'était aussi dans ces moments-là où tu vois que le Saint-Esprit est avec toi ou pas. Quand tu es tout seul et tu dois faire ce genre de décision. Il a décidé qu'il ne va pas se prosterner devant l'idole, ni les moines. Il a levé les mains en respect aux moines et à ses parents. Il a dit, je vous honore, vous êtes mes leaders dans le village, je dois beaucoup apprendre de vous, vous avez un pouvoir et je respecte ça. Mais je ne veux pas me prosterner devant les idoles. Je loue maintenant que le Dieu vivant. Et ça a créé beaucoup de problèmes pour lui et sa famille. Le chef du village commence à faire des problèmes avec son père. Son père était vexé avec lui. Alors, c'était très compliqué pour lui. Il était content de retourner dans l'internat. Et il vit ça encore maintenant. Il est encore en bataille avec ça. Il est devenu leader très jeune. Là, c'est l'âge de 17 ou 16 ans même. On a fait des camps, même dans son village, pas son village, mais un autre village de sa tribu. Il a ouvertement partagé sa foi. On a fait un groupe d'enfants, un camp pour les enfants. Vous voyez, il y a même les petits moines qui viennent aussi avec. Il y a à travers lui des clés maintenant dans la tribu. Quand je pense à lui, je pense à ce verset. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et quand je vois ce jeune homme, pour moi, c'est clair. Il n'est plus lui-même. Il n'est plus le double victoire d'avant. Il est changé. Il a encore un grand chemin à faire. Et il, dans son village, les jeunes de son âge, ils sont tous dans la drogue. Et ils utilisent la drogue et ils les vendent. Alors, il doit faire face à ça. Il doit faire les décisions. On sait ça. Mais quand je le vois, il a capté, il a saisi son identité en Dieu. Et voici le groupe de jeunes avec lesquels on travaille aussi. Et ici, une photo. On a allé faire un programme d'évangélisation Noël. Même là, on était dans une école publique. C'était tout d'un coup une porte ouverte. Une des enseignantes, pas chrétien, a voulu que les enfants aient une expérience de Noël, parce que c'était Noël. Alors, à travers d'un ami qui est là, il habite dans le village. Lui, il est chrétien. Il sert parmi ce peuple. C'est des Birmans. Il nous a invités pour faire un programme dans l'école. Et cette jeune, il a partagé, il y avait environ presque 200 enfants, aucun chrétien. On a fini le programme, le chef du village et les monastères, les moines, ils étaient en route. Quelqu'un nous a informé, il faut partir maintenant. On est parti, on a laissé le pauvre monsieur tout seul. Il a dû gérer la suite. Il s'est fait éjecter. Les deux enseignantes qui ont accueilli ce programme se font éjecter de l'école. Pendant 6 mois, c'était un moment très compliqué, très dur. Mais ce village, ils ont supplié aux moines et aux chefs du village, s'il vous plaît, on aimerait l'éducation, on aimerait que nos enfants ils aient des opportunités différentes. Vous moines, vous vous concernez pour la religion, mais laissez les enseignants retourner. Les deux enseignantes, ils ont retrouvé leur job. Et maintenant, ce monsieur-là, au milieu, il est quelqu'un de très important dans tous les villages parce qu'il fait du soutien après l'école. Et il y a environ 30 élèves qui viennent tous les jours chez lui pour apprendre les sujets avec lesquels ils ont les difficultés. Et puis là, de nouveau, double victoire envers. Il partage un peu son témoignage avec 200 enfants. Malgré qu'il sait que dans son village, quand il retourne, dans une semaine après ça, il va devoir faire face à la persécution. Mais Dieu, il a convaincu ces jeunes. Et puis, ça nous encourage beaucoup. Et dans la nouvelle école maintenant, que Estelle a partagé, c'était quelque chose de très sensible pour nous. On voulait qu'ils font un peu du, comment on dit, fellowship.
Qu'ils se retrouvent. Pour louer Dieu.
À travers cette enseignante, Lengue, à travers de le jeune, il y a des autres qui ont rencontré Dieu. Voici les deux autres filles qui sont maintenant aussi enseignantes. Ils ont décidé de suivre Dieu parce qu'eux, ils ont vu la foi vivant dans leurs amis. Et voici, sans qu'on les demande même, ils ont commencé à faire chaque semaine la louange ensemble. Ils étudient la Bible ensemble. Ils n'ont pas le droit. C'était exprimement dit par les moines. Vous ne faites pas ce genre de choses dans l'école. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Et bien sûr, ils doivent le faire à la cachette, la nuit, mais ils le font parce qu'ils voient qu'ils ont besoin de ça.
Donc, quand la jeune m'a envoyé cette photo que vous venez de voir, c'est un selfie. Tout d'un coup, elle m'a envoyé cette photo. On était en Suisse déjà et elle me dit « Hey, on est en train de se retrouver pour lire la Bible et louer Dieu. » J'étais aux larmes parce que ça faisait plusieurs mois que je priais. Je savais qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin de prier ensemble pour leur peuple. mais je ne me sentais pas le droit de leur dire « Allez-y, faites-le, faites-le », vu qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas le faire. Donc, je priais pour qu'ils sentent de Dieu que c'était le bon moment de commencer, mais je savais que je ne pouvais pas le leur dire moi-même. Donc, quand elle m'a envoyé cette photo, j'étais tellement heureuse. C'était une réponse à mes prières qu'ils aient le courage de se retrouver pour lire la Bible ensemble et s'encourager finalement les uns les autres. Voilà, vous arrivez encore à suivre? Oui? Ok, très bien. Alors, la dernière histoire qu'on aimerait vous raconter, c'est en fait tout un peuple. Si on regarde la carte du Myanmar vers le bas, à l'est, tout proche de la Thaïlande, il y a tout un peuple, toute une région qui est chrétienne. Ce peuple s'appelle les Karen. Les Karen, c'est un peuple merveilleux. C'est un peu, je dirais, comme le peuple choisi du Myanmar, parce qu'ils sont une bénédiction pour tout le reste du Myanmar. Ils ont été beaucoup persécutés. Il y a encore la guerre là-bas. L'armée birmane est tout le temps en train de venir sur leur terre, de tuer, de voler. Ouais, c'est une catastrophe, cette région. Et malgré ça, eux, ils se répandent dans tout le Myanmar. On trouve des Karen partout au Myanmar et partout où ils sont des missionnaires pour tous les autres peuples du Myanmar. Et on aimerait vous présenter cette famille qui est vraiment comme une famille pour nous là-bas. Ils s'appellent Pony et Hannah, c'est le papa et la maman. Et ils ont 3 enfants et ils sont vraiment un couple. On les appelle Famille de joie, là-bas, c'est leur nom. Un couple qui a une ferme dans notre région, qui n'est pas du tout leur région, mais ils sont là depuis quelques générations déjà, établis là-bas. Ils ont une grande ferme et dans cette ferme, ils invitent les gens à être discipulés, ils recueillent les gens qui sont chassés de leur village, ils forment les gens à l'agriculture, à la culture du café et du thé. Ils font vraiment, vraiment un ministère merveilleux. Ils vont faire de l'évangélisation. Ils ont appris plusieurs dialectes d'autres tribus pour pouvoir atteindre ces tribus. Et eux aussi, ils ont souffert de beaucoup de persécutions. Et on aimerait vous partager ce verset de 2 Corinthiens 4, 8 à 9. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et ces gens, c'est vraiment une famille de joie. Ils sont pressés de toute manière. Et pas seulement par les gens autour, pas seulement par les autorités. Là, vous pouvez voir une photo d'elle avec Eliam, notre premier garçon, quand il était tout bébé. Elle s'occupait de lui. Ils sont aussi pressés physiquement, car elle a besoin d'une transplantation de rein. Donc, elle souffre énormément dans sa santé. On est en train de prier pour trouver un donneur de rein pour qu'elle puisse avoir une transplantation. Et ils ont été beaucoup persécutés par les bouddhistes dans leur région, les moines. Il y a même un moine qui a construit une énorme tour, une énorme pagoda, comme on les appelle, stupa. Un temple, une stupa, tout proche de leur ferme, pour essayer de réduire leur pouvoir, en fait. Et ce moine qui les déteste, il avait créé tout plein de faux témoignages, des accusations, pour que l'homme, Pony, puisse être emprisonné, pour qu'il puisse se débarrasser de lui. Donc, il avait créé ça, il était venu lui dire « Demain, je vais amener ces lettres à la police, tu ferais mieux de t'enfuir parce que tu vas être... » ou te convertir au bouddhisme parce que tu vas être emprisonné. Et il avait beaucoup de pouvoir, cet homme. Et tout le monde s'est mis à prier. Ils ont prié toute la nuit. Et le lendemain, il ne s'est rien passé. On ne savait pas ce qui se passait. Et quelques jours après, on a appris que ce moine avait été emprisonné. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce moine, il avait plusieurs prostituées. Et l'une des prostituées est devenue jalouse d'une autre prostituée. Et alors, elle est allée le matin où même où lui voulait aller à la police. Elle est allée, elle, faire toute une déposition de toutes les choses, de tout l'argent qu'il volait, de toutes les prostituées qu'il avait. Elle est allée à la police et il s'est fait emprisonner pour 6 mois. Donc, le jour où il devait aller faire emprisonner cet ami chrétien, il est lui-même allé en prison. Donc, on a vraiment vu la main de Dieu sur eux, les protéger. Ça, c'est notre voisine, aussi une femme, Karen, qui est une bénédiction énorme pour nos écoles. Elle nous aide à former les enseignantes et une bénédiction énorme pour nous parce qu'elle s'occupe tellement bien de nos enfants quand ils vont vers eux. Donc, on vous avait parlé de cette ferme que ses amis ont. Ils ont cette ferme, et dans cette ferme, ils accueillent souvent les enfants réfugiés des zones en guerre. Quand, par exemple, c'est trop dangereux pour eux de rester dans la zone de guerre, les parents les envoient. Parce que, en fait, nous avons pas mal d'enfants soldats au Myanmar. Et puis, les tribus savent quand l'armée va venir recruter les enfants pour devenir soldats. Donc, ils essayent de les envoyer au loin pendant ces mois où c'est très tendu. Et cette famille que vous voyez, donc cette femme, les accueille dans notre région, qui est une région en paix, les accueille chez eux pour les protéger. On avait fait un camp, du coup, un camp chrétien, même que ces enfants viennent tous de familles bouddhistes. On avait fait un camp pendant, je ne sais plus, 2 mois, c'était, où ces enfants, ils ont tous reçu tellement d'amour, tellement de joie, de la bonne nourriture qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant. On avait reçu un don d'une église en Suisse pour bénir ce camp et on a pu les emmener faire du patin à roulettes, on a pu les emmener faire un tour en bateau sur un lac, on a pu leur acheter des ballons, plein de choses qu'on a pu faire, des bricolages, de la peinture, tout ça. C'était un temps merveilleux pour eux et ils sont rentrés chez eux bénis et plein de l'amour de Dieu et convaincus qu'ils étaient aimés et précieux.
Ils sont tous aux yeux d'aimer.
On peut dire que vraiment la majorité de ces enfants maintenant sont chrétiens. Ils sont des témoins dans leur tribu et maintenant, ça fait, je ne sais plus, 3 ans. Mm-hmm. Donc certains de ces enfants, ils sont des jeunes adultes maintenant et ils dirigent des églises locales dans leur petit village.
Lui, il est en train de faire EFT.
Voilà, le jeune là en orange, il est en train de faire maintenant une école de disciples. On a pu l'envoyer dans une école de disciples. Alors voilà, donc ça c'est pour ces jeunes. Merci de nous avoir écoutés, vraiment. On aurait encore beaucoup d'histoires à vous raconter sur le Myanmar. Le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. On a l'impression que c'est un moment de moisson, vraiment. Mmh. On est béni d'être là. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été semées pendant des années avant que nous on arrive et que peut-être ils n'ont pas vu le fruit de leur travail, tous ces missionnaires, tous ces travailleurs qui ont travaillé dans les champs pour le Seigneur. Et nous, on est vraiment dans la période de moisson. On a la chance de voir beaucoup de fruits, de choses qu'on n'a pas semées, en fait. Et on est vraiment bénis, on est émerveillés par ce que Dieu y fait. Comme vous pouvez le voir, il y a de la persécution au Myanmar, mais ce n'est pas violent, c'est plutôt émotionnellement fatigant, émotionnellement difficile de se mettre à l'encontre de sa famille, de se mettre, de savoir se positionner et de choisir Dieu. Mais le bonheur qu'on voit, c'est que Dieu bénit les chrétiens. Dieu bénit les chrétiens. On voit les chrétiens, par exemple Mingues, quand elle a recréé son champ, elle avait personne pour l'aider à faire son champ. Et il y a eu une inondation. Tous les autres champs de son village ont été inondés cette année-là. Et son champ, à elle, n'a pas été inondé. Donc, le Seigneur vraiment protège ses enfants, bénit ses enfants, et au travers de tout ça, au travers de l'éducation chrétienne, au travers du fait qu'ils arrivent à résister à la drogue, que les jeunes travaillent bien, qu'ils montrent du respect à leurs parents, tout le monde est touché. Et ils se rendent compte, mais au fond, eux, ils vivent bien mieux, eux, ils ont une vie saine, ils sont respectueux, ils ne touchent pas à la drogue, et alors que nos enfants bouddhistes volent pour pouvoir avoir de la drogue et ils sont très disrespectueux. Donc, malgré tout, que c'est difficile, qu'il y a de la persécution, le Seigneur bénit et l'Évangile est vraiment de plus en plus respecté, je dirais. Et les chrétiens ont de plus en plus la faveur dans notre région. Donc voilà, on aimerait encore partager nos sujets de prière avec vous si vous avez envie de prier pour le Myanmar. On aimerait que la communauté chrétienne puisse avoir du courage, mais dans le monde entier. Car on voit... Tu veux pas me donner ce sujet de prière?
Je sais pas.
Car on voit que même en Suisse, on a beaucoup de liberté. On a beaucoup de possibilités de partager l'évangile, mais on est souvent trop timide et on a la peur des hommes, en fait. On n'a pas peur d'être persécuté dans notre personne physiquement, mais on a peur d'être stigmatisé, on a peur d'être rejeté et ça nous empêche de partager à cause de cette politesse et de cette laïcité qu'on nous a toujours enseignée. Je vois que dans nos milieux, beaucoup d'entre nous, nos collègues de travail ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que notre travail est au-dessus de notre foi? Est-ce que ce qu'on a à offrir en tant que chrétien n'est pas assez précieux? Et puis, il y a un verset, on ne l'a pas mis là, mais il y a un verset, c'est Proverbe 25, qui dit « La crainte des hommes tend un piège. » Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à prendre une décision d'utiliser notre liberté pour partager cet évangile. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcé. On n'a pas besoin d'aller vers les gens et leur taper dessus avec notre Bible. Mais comme ce verset le dit, l'immédiate solution à la peur, c'est l'Éternel, c'est faire confiance à l'Éternel. Et j'ai pris l'habitude, moi, c'est qu'à chaque fois que je vais visiter une amie qui n'est pas chrétienne, à chaque fois que je me rends à mon travail, à l'école ou comme ça, je prie le Seigneur pour des opportunités. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, tu vas ouvrir une porte et je vais la saisir. Je ne vais pas avoir peur, je vais la saisir. Et je vois tous les jours, quand je fais cette prière et que je rencontre quelqu'un non chrétien, tout d'un coup, il y a une discussion. Oh, ils ont peut-être une difficulté. Je peux dire, écoute, je ne sais pas comment t'aider, mais je peux prier pour toi parce que je suis chrétienne. Ou bien une question qui se pose, je ne sais pas comment faire quelque chose et je peux dire, moi, j'ai déjà vécu ça avec le Seigneur. Il m'a aidée dans cette situation. Et c'est vraiment... une collaboration avec Dieu. Ce n'est pas nous qui devons nous battre nous-mêmes et aller apporter l'évangile. Moi, j'ai fait ça souvent avec mes amis. J'essayais de leur apporter l'évangile tellement de manière forte qu'ils étaient blessés dans leur personnalité. Elles étaient blessées, mes amis. Elles ne comprenaient pas ma façon de faire. Mais lorsque j'invite le Seigneur à ouvrir les portes, j'ai vraiment la possibilité d'entrer dans son plan pour la personne pour laquelle je travaille. Donc voilà, que l'on puisse prier pour du courage pour la communauté chrétienne dans le monde entier, qu'on ne vive pas dans la crainte, qu'on puisse prier pour la faveur de Dieu sur les chrétiens du Myanmar.
qu'ils aient... C'est moi qui ai écrit, alors ça va.
Il n'est pas francophone. Qu'ils aient accès à une bonne éducation et à des positions d'influence pour pouvoir transformer positivement leur nation. On aimerait prier pour que la loi change, pour que les bouddhistes aient le droit de choisir leur religion, qu'ils aient le droit de changer de religion, qu'ils aient le droit de marier des chrétiens. Ça, pour l'instant, c'est aussi illégal de marier un bouddhiste et quelqu'un de chrétien ensemble. Et pour qu'ils aient le droit aussi d'adopter des enfants. Les bouddhistes, les chrétiens n'ont pas le droit d'adopter des enfants. Seulement les bouddhistes ont le droit. Et il y a beaucoup d'orphelins au Myanmar qui ne sont pas adoptés. Et si les chrétiens avaient le droit de les adopter, ils pourraient les adopter. Et on aimerait aussi que vous puissiez prier avec nous pour que notre famille puisse bientôt retourner au Myanmar. On était censé être en Suisse pour 2 mois et ça fait plus de 4 mois qu'on y est. Maintenant, moi, j'ai le COVID depuis quelques jours, mais on espère qu'après cette quarantaine de COVID, on ait les autorisations pour pouvoir retourner au Myanmar et continuer notre travail. Voilà.